Et on retrouve à présent, comme chaque mardi soir sur Radio Shalom, nos amis du timesofisrael.com. Nous sommes en ligne avec Frédéric Chilo, qui est blogueuse, qui est chercheur, historien. Bonsoir à vous Frédéric.
Bonsoir Bernard.
À Tel Aviv, et vous avez signé un papier, donc dans le Times of Israel, sur la reconnaissance par la France de l'État de Palestine. Et pour être plus précis, sur la volonté du groupe socialiste à l'Assemblée nationale de faire passer une motion, de faire passer un vœu, je crois qu'on appelle ça comme ça juridiquement, demandant au gouvernement de reconnaître l'État de Palestine. Vous avez remarqué, parce que c'est votre domaine de chercheuse, vous avez remarqué que les termes et la méthode employée pour reconnaître l'État de Palestine aujourd'hui est la même que celle qui avait été utilisée par le Parlement français pour reconnaître l'État d'Israël il y a plus de 60 ans. Expliquez-nous.
Oui, j'ai été vraiment frappée de voir, d'entendre ici là dans le débat qui est très important maintenant en France, que ça ne faisait pas partie de la culture politique française de reconnaître un État en passant par le Parlement. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas eu des tannes, et Dieu merci d'ailleurs, parce que le Parlement n'a pas vocation à donner son avis sur tout, mais il y a tout de même une résolution qui est importante et qui mérite d'être soulignée, c'est celle qui a été passée en 1948, 6 jours seulement après la création de l'État d'Israël, sa proclamation par Ben Gurion, et qui a été passée par un socialiste français au Parlement. On était là sous la 4e République, et il s'agissait alors surtout de faire un salut fraternel au nouvel État qui venait d'être créé et qui était déjà menacé dans son existence par les armées arabes. Mais ça procédait de la même chose exactement. Une autre chose aussi qui m'a un petit peu étonnée, c'est qu'on a tendance à dire avec ce vote sur la création de l'État de Palestine que ça signifierait que la France a un double langage. Vous l'entendez sûrement aussi, Bernard, de dire bon, la France elle est avec Israël ou elle vote pour la Palestine. C'est à la fois méconnaître la culture politique, qui n'est jamais vraiment monolithique, et c'est méconnaître surtout la culture politique française, qui a toujours été assez diverse.
Non seulement elle a été diverse et multiple, mais vous voyez que je vous ai lu, vous en avez décelé trois. Vous dites voilà.
Oui, exactement.
Alors, ça s'est passé comme ça au moment d'Israël. C'est-à-dire que, par exemple, l'État d'Israël représentait les Lumières, la modernité, et on avait, enfin, un État sympathique, quoi. Pour des socialistes français, on avait envie de les soutenir, mais d'un autre côté, on est catholique, alors on n'est pas trop pour un État juif. Et puis d'un autre côté, on est une grande puissance méditerranéenne. En tout cas, on aime à le croire. Et donc, tout ça, ça donne des contradictions. Et vous avez l'impression qu'aujourd'hui, on a les mêmes contradictions.
Exactement. Depuis le début, c'est vraiment le socle de la politique étrangère française ici en Israël. La France soutient à la fois la création et la naissance de l'État juif, en vertu donc, comme vous l'avez dit, de valeurs morales, universelles. C'est la France des droits de l'homme, celle de la première émancipation des Juifs, c'est la France de la résistance, de la lutte contre Vichy, contre la barbarie nazie. C'est la France qui est la première communauté juive d'Europe, on le sait bien. Et puis, il y a aussi cette France qui est puissance méditerranéenne, comme vous l'avez très bien dit, qui prétend l'être.
C'est vous qui l'avez écrit. Hein.
Encore aujourd'hui.
Je vous ai pillé.
À l'époque, c'est une puissance. D'abord, c'est un grand à l'ONU, elle est toujours aussi. Et puis, c'est une puissance coloniale. Sa présence en Afrique du Nord, ses intérêts au Levant, en Syrie et au Liban, expliquent que la France hésite. Quand même quelqu'un, par exemple, comme Édouard Depreux, j'en parle dans l'article, qui est le ministre de l'Exodus, qui est célèbre par tous pour son attitude pendant l'affaire de l'Exodus, eh bien c'est le premier, dans le premier conseil des ministres en 1948, à dire, mais juste après la création d'Israël, il faut patienter un petit peu, car la France aussi est une puissance musulmane, dit-il. Et il faut patienter avant de la reconnaître. Et puis il y a une troisième France, qu'on a tendance à oublier, mais qui est toujours là, très présente, et surtout à Jérusalem, c'est la France qui est née de l'Église. C'est pour cette raison que les Français ne reconnaissent pas Jérusalem comme capitale d'Israël, parce que la France a toujours voulu l'internationalisation des lieux saints et réserver Jérusalem comme capitale, peut-être, d'un État palestinien et d'un État israélien.
Mais je vois beaucoup d'émotions, moi, autour de cette volonté socialiste de reconnaître l'État de Palestine, sachant que ça n'a aucune valeur juridique. D'ailleurs, à nouveau, vous avez fait le parallèle. Vous avez remarqué que il y a eu le vote au Parlement pour l'État d'Israël et que c'est bien après que le gouvernement français a entériné cette reconnaissance. Hein.
Oui, alors il l'a fait longtemps après. Hein. La France, quand même, on a tendance à l'oublier, c'est une des dernières à avoir reconnu l'État d'Israël. Elle a attendu en janvier 49 pour le reconnaître. Israël, à l'époque, venait juste de signer quelques armistices, pas tous, il était encore en guerre, notamment avec la Syrie, jusqu'à l'été 49. Mais elle attend jusqu'au 20 mai 49 pour reconnaître de jure l'État d'Israël, c'est-à-dire de manière complète. Autant dire qu'elle est l'une des dernières à avoir reconnu l'État d'Israël. Aujourd'hui, que la France veuille soutenir face à un appel fraternel, comme cela a été le cas dans le passé, cette fois pour un État palestinien, ça n'est pas anormal, ça n'est pas hérétique. Il y a cette culture française, encore une fois, des trois Frances, et ce serait méconnaître les fondements de la politique extérieure française que de les ignorer. On dit, il y a beaucoup d'émotions, vous l'avez bien dit, parce qu'on a l'impression que la France se détache d'Israël. Bon, regardez, par exemple, dans un même parti politique, il est possible d'avoir des avis totalement divergents. Regardez l'UDI. Vous avez d'un côté la sénatrice Sylvie Gouache-Avant, qui est pour le boycottage des produits israéliens dans les territoires, et vous avez le député Meir Habib, qui lui-même est censé représenter les Français en Méditerranée, de l'Italie jusqu'à la Turquie, en passant par le Vatican, pour l'oublier, et par Israël, dont on sait bien entre nous qu'à la fin, il représente surtout les Israéliens ici, et surtout le Likoud. Maître Madi, que l'UDI pratiquait un double langage, ou que M. Meir Habib lui-même n'était pas dans une position sincère, en restant dans un parti dont l'un des membres promeut, et le premier en France, à promouvoir le boycott d'Israël dans les territoires.
Mais je vais vous dire, moi, très franchement, d'ailleurs, vous avez fait le lien vous-même, le fait que le Parlement français... Bon, oui, il y a une émotion parce que c'est le groupe socialiste, donc c'est le parti au pouvoir. Et oui, ça change. Et la France est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, donc oui, ça change. C'est pas comme un vote en Suède. Ceci étant, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire ? Pourquoi développer un tel débat ? Tout le monde sait que les socialistes français veulent un État palestinien. Qu'est-ce qu'il y a ? Je comprends pas, moi, le vrai sentiment de trahison qu'éprouvent de nombreux blogueurs qui s'expriment sur Internet. Pourquoi ?
Alors déjà, c'est vrai qu'il y a les socialistes, il représente aussi les écologistes et les communistes. Si le vote ne tenait qu'à ça, on aurait bien fait de les cataloguer à la gauche de la gauche, sans en être plus étonné que ça. Non, il y a quelque chose qui se passe en ce moment, c'est que ce vote est tout à fait symbolique. Il n'engage pas le président de la République, qui lui seul décidera, s'il peut décider.
Mais il dira non.
Mais il y a un mouvement, vous voyez bien, vous le sentez bien. Ce vote est symbolique, mais il vient ensuite après celui qui a eu lieu à Londres, celui qui a eu lieu en Suède. Et la France, en Europe, on le sait bien, on le sait tous, a toujours eu une position de leader sur le sujet. La France ne peut pas laisser passer le train d'histoire comme ça en Israël, en Palestine. La France a toujours été leader. Donc, on sait bien que faisant cela, son vote, en fait, veut dire beaucoup plus que le simple vote des députés socialistes et de ceux qui voudront les rejoindre au Parlement français.
Alors, je disais, vous avez fait le lien vous-même, la vraie bataille, en fait, est à venir. Parce que la prochaine bataille, c'est celle du boycott des produits israéliens produits dans les territoires. Je précise bien, produits dans les territoires. Car pour cela, il y a une majorité en Europe. Et ça, c'est vraiment une décision politique qui va faire un mal dingue aux Israéliens. Le vrai combat, il est à venir. C'est demain.
Alors c'est pour ça qu'en fait, il faudrait plutôt non pas se réjouir, mais se dire que c'est un moindre mal que cette reconnaissance qui aura lieu au Parlement français. Parce qu'elle nous épargnera peut-être un vote de ce type, que moi je qualifie de terrible, qui serait le boycottage des produits dans les territoires. mais elle permettra à la France de se positionner en leader, d'ensuite pouvoir sans doute amener un dossier plus important à l'ONU. On sait que le ministre des Affaires étrangères, Fabius, s'y attelle en ce moment. En plus, le moment est propice pour les Français, parce que les Américains ont échoué, en gros, au Moyen-Orient, notamment en Syrie et notamment en Iran, et que les Français, s'ils ne pensent pas combler le vide laissé par les Américains, au moins vont essayer de rivaliser, d'apporter quelque chose de nouveau. Donc on peut essayer de penser que cette résolution, elle peut être un moindre mal pour forcer Israël à revenir à la table de négociation avec l'autorité palestinienne, bien sûr, pas avec les islamistes et le Hamas. Mais on peut imaginer que cette résolution nous préserve finalement de débats beaucoup plus terribles sur le destin d'Israël.
Eh bien, Frédéric Chilot, je rappelle que vous êtes historienne et chercheuse et qu'on retrouve ce papier sur le blog que vous avez et que vous animez sur le timesofisrael.com. Merci à vous Frédéric à Tel Aviv et bonsoir.
Bonsoir.
Et on retrouve dans un instant le journal de Pierre Gandus.